Mais dans cette partie de l'évangile de Jean, on sait que Jésus passe ses derniers moments dans l'intimité de ses disciples. C'est le dernier soir avant qu'il soit arrêté et condamné à mort. Et on voit dans les derniers échanges qu'il a eus avec eux, ça c'est le chapitre précédent, le chapitre 14, le thème principal c'était le départ. Le départ de Jésus vers son Père, aussi la venue de l'Esprit vers eux, et les questions qui sont associées à cela. Mais la question à laquelle notre texte semble vouloir répondre, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque physiquement Jésus n'est plus présent? Comment est-ce que cette relation avec lui, elle va pouvoir s'approfondir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir grandir dans leur relation avec Jésus qui ne sera plus là physiquement avec eux? Et si vous êtes croyant ce soir, ce sera la question à vous poser. Comment est-ce que je vais pouvoir approfondir ma relation avec Jésus? Et si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas croyant ce soir, ou si vous ne savez pas exactement où vous vous positionnez, j'espère que ce qu'on va méditer ensemble, ça vous donnera envie d'en savoir plus, envie d'aller plus loin. Les deux points qu'on va avoir ce soir, c'est demeurer en moi, dans les 8 premiers versets, et demeurer dans mon amour. En entendant parler d'approfondir la relation avec Jésus, il y en a peut-être qui se disent « Ah bon ?» Je pensais que vous pouvez tout simplement dire « Bon, ben, il y a une relation, elle est là, et puis voilà, c'est l'essentiel est fait, on est dans une relation avec Jésus. » Je ne pensais pas qu'il fallait se casser la tête, approfondir, développer la relation. Imaginez la rencontre de deux célibataires. Ils se rencontrent, ils passent quelques soirées ensemble, des sorties, et puis à un moment donné, ils veulent aller plus loin, c'est le temps des fiançailles, et ils veulent aller plus loin encore, c'est le temps du mariage. Le mariage se fait, et après le mari, après la journée, dit « Ouf, c'est réglé, c'est terminé, maintenant on n'a plus à se casser la tête, l'affaire est réglée. » L'épouse n'est pas très sûre de bien comprendre ce qu'il veut dire, alors elle pose une question pour essayer d'en savoir plus. Tu veux dire l'organisation du mariage, les démarches administratives, tout ça c'est réglé, mais on va encore approfondir notre relation, non ? On va construire notre histoire ensemble. Et le mari, avec le tact des hommes, dit « Je pensais à l'ensemble. Maintenant, on va se laisser vivre et c'est bon, c'est fait. » De la même façon avec la relation avec Jésus, ce serait complètement aberrant de se dire qu'on a une relation et on en reste là. Elle va s'approfondir, elle doit s'approfondir. C'est ce que Jésus veut nous dire, mais il va même plus loin. Il va même jusqu'à dire que si elle ne s'approfondit pas, on peut légitimement se demander s'il y a une relation. On commence avec « demeurer en moi ». Qu'est-ce qu'il veut dire par cela ? On note ici que c'est le dernier « je suis » de Jésus ou « c'est moi qui suis » dans l'évangile de Jean. Et Jean en a révélé symboliquement 7. Et vous avez des antisèches au mur pour vous les remémorer. Pourquoi est-ce que Jésus utilise ici « c'est moi qui suis la vigne » ou « je suis la vigne » ? Est-ce que c'est simplement pour reprendre une image qui, semble-t-il, était courante dans l'Antiquité ? On entend divers auteurs juifs, gnostiques, un philo, par exemple, utiliser cette image. Quand on pense aux autres « je suis » de Jésus, on voit que Jean montre clairement qu'ils étaient imprégnés ou saisis, tirés du contexte de l'Ancien Testament, comme il l'a fait avec le Temple, comme il l'a fait avec la manne, comme il l'a fait avec la lumière dans le temple, le berger. Jésus aime montrer comment il incarne ce symbole et le remplace. Prenez un texte dans l'Ancien Testament comme Ésaïe 5, versets 3 et 4. « Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous en prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants ?» Termine en beauté. Hein. Mais déjà dans cette citation, on voit que l'image est utilisée pour décrire le peuple d'Israël et donc la relation de Dieu comme un vigneron avec ce peuple. Mais dans ce texte, et comme dans l'ensemble des textes où l'image est prise pour le peuple, on constate que c'est souvent de manière négative que le peuple est décrit, qu'il n'a pas été à la hauteur de sa vocation. Et dans un autre texte, celui du psaume 80, qui reprend cette image, on entend une requête de la part d'un auteur. « Dieu des armées, reviens s'il te plaît. Regarde du ciel et vois, interviens en faveur de cette vigne. Protège ce que ta main droite a planté et le fils que tu as toi-même rendu fort. » Ce qui est intéressant dans ce deuxième texte, au-delà du fait que l'image de la vigne est de nouveau présenté comme symbole du peuple, là de cette attente, il y a ici un fils qui est mentionné. Comme si Jésus, en disant « Je suis la vigne », pouvait bien incarner cette réalité-là, puisqu'il est en même temps le fils et celui qui dit être la vigne. Jésus affirme ni plus ni moins qu'il est le véritable Israël, le véritable peuple de Dieu, et que pour faire partie de ce peuple, il va falloir être attaché à lui. L'image, elle décrit bien aussi la relation intime que Jésus veut avoir avec ses disciples, avec ceux qui croient en lui, cultiver, apprécier cette relation. Et notez que lui-même, il ne se décrit pas comme indépendant. C'est la première fois où « je suis » est associé à autre que lui dans l'image. Il dit « mon père est le vigneron, c'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon père qui est le vigneron. » Mais revenons à cette question de départ. Comment est-ce que je vais approfondir ma relation avec Jésus? Comment est-ce qu'elle va s'approfondir? Pour commencer, on pourrait relever le rôle essentiel de la parole et Matthieu l'a déjà mentionné. Mais imaginez une discussion avec quelqu'un qui, de toute évidence, n'aurait pas la même conviction que ça. Et il sait que vous venez à la rue de Sèvres et il commence à part vous dire « Mais qu'est-ce que tu passes tout ce temps à vouloir aller méditer la Bible, lire la Bible ? Tu la lis à la maison, tu vas à la rue de Sèvres, tu fais des études. Mais qu'est-ce que tu passes tout ce temps dans l'étude de la Bible ?» Déjà, indirectement, ça serait un compliment. Mais imaginons que la personne, là où elle veut aller, elle dise en fait, moi je suis dans une relation. Moi je suis dans une relation vivante avec Jésus. Toi tu passes tout ce temps à lire la Bible, comme un rat de bibliothèque, en train de lire des textes ici et là, toujours en train de dans le texte. Moi je suis dans une relation vivante. Déjà peut-être dans un premier temps vous êtes pris de froid. Mais c'est vrai ça, je devrais être dans une relation avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Le problème, c'est que Jésus dit clairement dans un texte où il parle de sa relation avec ses disciples, avec ceux qui croient en lui, il dit clairement que ça passera par sa parole. Regardez le verset 3. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Parce qu'il s'agit du passé, il peut dire que les disciples ont été purifiés par cette parole. Mais même dans la manière de demeurer en lui, si vous demeurez en moi et que mes paroles, verset 7, demeurent en vous, autrement dit, ça va être lié, ça sera une des conséquences de demeurer en lui. Ça se fera bel et bien par la parole. Une autre chose qui ressort dans cet approfondissement de la relation, c'est que le Père, le vigneron, selon l'image, va purifier cette vigne. Autrement dit, pour un terme technique, ça serait émondé. Mais semble-t-il, il y a un choix d'avoir un jeu de mots avec purifier ici, dans le sens de comme une purification qui s'est opérée dans la vie de ceux que Jésus a lavé, purifié. Une purification qui se fait comme un vigneron qui coupe tout ce qui va ne pas permettre à la sève de s'écouler pour que du fruit plus abondant soit porté. Autrement dit, tout ce qui va nuire au développement de ce sarment et d'un plus grand nombre de fruits, tout cela va être enlevé, émondé. Alors peut-être que émondé, purifié, ça ne sonne pas très positif. Vous dites, qu'est-ce qui va couper? Si moi je suis dans la position du sarment, qu'est-ce qu'il veut enlever dans ma vie? Et effectivement, c'est une des conséquences du fait de demeurer en Jésus, d'être en lui, il y aura des remises en question. Il y a des choses, des domaines dans ma vie qu'il va remettre en question par sa parole. Et ça fait partie de l'approfondissement de cette relation. Par la répétition des paroles « demeurez en moi », Jésus souligne cette dépendance qu'on va avoir par rapport à lui pour que l'on puisse porter du fruit. J'en ai peut-être déjà, je crois en avoir déjà parlé, mais quand j'avais 20 ans, je me souviens avoir écrit une lettre à un pasteur pour lequel j'avais beaucoup de respect et lui demandant, enfin, lui disant un peu mon sentiment en regardant quelques années de vécu de vie chrétienne, six ans de vie chrétienne, j'avais le sentiment que je ne voyais pas de changement, je ne voyais pas de progrès. Pour reprendre cette image, je ne voyais pas de fruits portés. Et il a pris le temps de répondre, une longue réponse par une lettre, mais essentiellement, on pouvait la résumer par ces paroles qu'il citait à plusieurs reprises. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces paroles que Jésus dit ici, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et comme si ça nous poussait naturellement vers ce que Jésus dit au verset 7 et qu'il dira par la suite dans la deuxième section, nous poussait naturellement vers la prière, vers un besoin de lui, une dépendance en lui. Maintenant, en entendant la description de cette vigne, vous êtes peut-être dit, mais qu'est-ce que c'est que ces branches coupées, séchées, qui brûlent, qui sont brûlées, ça sonne pas très bon, ça. Est-ce que c'est, et certains l'ont vu comme cela, la démonstration qu'il y a ce qu'on appelle la perte du salut, que certains ont peut-être connu le salut pendant un temps, mais qu'au bout d'un moment, voilà, c'est terminé, ils ne sont plus sauvés. Comment répondre à ça? Bon, déjà, d'une part, ça serait une incohérence ou une contradiction interne dans l'évangile de Jean. S'il y a bien un évangéliste qui parle de la sécurité éternelle des croyants, c'est bien Jean, pour n'en mentionner que deux, Jean 6, 39 ou Jean 10, 27, 28. Il parle bien de la sécurité éternelle des croyants. Mais que ce soit sur un plan large ou un plan serré comme ici, Jean veut nous mettre en garde contre une vision trop simpliste du salut. À la fin de son livre, il affirme que tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit pour susciter la foi en Jésus, qui est le Fils de Dieu. Mais au début de son livre, il a fait mention de personnes qui ont eu foi en Jésus, chapitre 2. Mais il continue en disant que Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il savait que cette foi n'était pas authentique. Autrement dit, ce n'est pas une foi qui allait aller jusqu'au bout. Comme dans la parabole du semeur, on peut voir quelque chose tomber à terre, quelque chose démarrer, et pourtant ne pas aller au bout. Le salut ne viendra pas de la rapidité d'une décision, mais du fruit dans le long terme. Et notre passage, il dit essentiellement la même chose. Ce qui démontre la foi d'une personne, ce n'est pas simplement une affirmation. J'ai eu une expérience, ou j'ai fait telle prière, ou même je me suis fait baptiser. Ce n'est pas ça qui va démontrer la foi authentique d'une personne, mais c'est le fruit qu'elle va porter dans le long terme. Mais dans les termes que Jésus utilise ici, et au chapitre 13, il semble faire allusion à Judas, en fait que lui n'avait pas été, il pouvait dire que lui n'avait pas été purifié, tous n'étaient pas purs au chapitre 13, pensant à Judas. Un croyant authentique, c'est quelqu'un qui va être sauvé et qui va montrer par sa vie entière, en portant du fruit, qu'il est bien attaché à Jésus. Et peut-être à l'inverse, si vous dites, ben moi, en fait, j'ai l'impression que je porte du fruit. Moi, j'ai justement cette impression-là qu'il y a des changements qui s'opèrent dans ma vie. J'ai vu des changements. Est-ce que ça devrait nous pousser à une certaine satisfaction personnelle, à un sentiment qu'on a atteint ce qu'il fallait atteindre? Le but est décrit au verset 8, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » L'histoire d'Israël montre que le peuple n'a pas su être à la hauteur de sa vocation. Et ça serait pareil pour nous si on n'était pas attaché à Jésus. Si ce n'était pas lui qui nous faisait porter du fruit. Et tout sera à la gloire du Père qui aura participé à cette œuvre. La question que je vous pose, au terme de cette première partie, c'est qu'est-ce qui caractérise votre relation à Jésus? Est-ce que c'est l'approfondissement, l'attachement, des remises en question régulières, une dépendance toujours plus forte, sentiment de ne pas être à la hauteur, peut-être, besoin d'une intervention de Jésus dans votre vie? Ou est-ce que c'est à l'inverse du bricolage, une association temporaire, la mobilité? Je pense à des remarques qu'une personne m'a faites au sujet des églises à Paris. En résumé, il disait la chose suivante. Les églises à Paris sont des églises de consommateurs. Les gens ne se connaissent pas. Ça change tous les dimanches et on n'est pas accueilli. Déjà, quand on est pasteur d'une église à Paris, c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre tous les jours. Hein. Bon coup dans le tibia. Et en fait, ma première réaction, c'est de dire, mais attends, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je défendais notre église, mon église et d'autres églises ici à Paris. Mais en réfléchissant par la suite à cette remarque, je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas une part de vrai. C'est vrai, c'est un peu à l'emporte-pièce, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vrai en cela ? On peut estimer que le mouvement, la mobilité ici à Paris, elle peut s'expliquer par des temps d'engagement professionnel qui sont courts, des temps de formation qui sont courts, une mobilité aussi dans le fait de déménager et autres. Ça peut s'expliquer aussi légitimement par des personnes qui vont venir visiter des églises et qui, à un moment donné, vont faire le choix d'une église. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a une personne à une église, mais aime bien venir de temps à autre à la RDS pour saluer les uns et les autres. Mais au-delà, pour des croyants qui veulent vivre une relation plus profonde avec Jésus, est-ce qu'il n'y aurait pas un attachement plus évident, une présence plus régulière, un désir de vivre cette dépendance avec lui de manière plus constante? Jésus poursuit en disant qu'il faut demeurer, mais il ajoute un autre mot-clé cette fois-ci à celui de demeurer. Et c'est le mot l'amour, demeurer dans mon amour. En tant que chrétien, une des distinctions qu'on fait parfois, et je pense qu'elle est utile, souvent utile, c'est de dire que pour se distancier d'une foi qui serait basée sur des règles à accomplir, des choses à faire pour être en paix avec Jésus, eh bien, ce serait de dire la foi en Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est vrai. Foi en Jésus, c'est essentiellement une relation avec une personne. Et notre texte le met en évidence. Jésus parle de l'amour entre le Père et le Fils, de l'amour qu'il veut manifester de la part du Père. Il montre aussi l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et quand il veut décrire notre relation avec lui, il utilise le thème de l'amitié. Il y a bel et bien une relation au cœur de notre foi. Une relation qui décrit bien le contexte dans lequel Jésus veut nous voir grandir. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie? Comment comprendre, par exemple, ce que dit Jésus au verset 10 et 14? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi, je vous commande. Est-ce que là, on retourne dans l'idée de la religion? C'est-à-dire qu'il va falloir gagner son amour, gagner son amitié? Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre et je vous dirai si je peux être un de vos amis. Pour reprendre l'image de la vigne, allez, produisez du fruit. Montrez-moi que vous n'êtes pas de la piquette et on verra ensuite si ça passe. Eh bien, très bien, si ça ne passe pas, ça casse. Et sinon, il faut travailler. Est-ce que c'est ce que Jésus veut dire ici? Pour mieux comprendre ce qu'il veut dire, ben pourquoi pas entrer dans cette image de l'amitié qu'il utilise? De qui parle-t-il lorsqu'il dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis ». Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Ça, c'est évident dans le contexte et aussi dans ce qui suit, que c'est lui. Que c'est lui qui va se défaire de sa vie. Comme il l'a annoncé, qu'il va se sacrifier pour ses disciples et mourir à la croix. Il veut sécuriser ses disciples, les croyants, en se sacrifiant pour eux. Et il veut qu'on vive dans la sécurité de son amour. Pas un amour qu'on a à gagner, mais que lui a gagné pour nous. Et pour être sûr qu'ils ne pensent pas qu'ils sont aimés parce qu'ils ont, ils étaient les meilleurs, parce qu'ils ont été à la hauteur, il enchaîne en disant « C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? On a vu dans la section précédente tout ce que Jésus attend des disciples. Et à un moment donné, il pourrait se dire « Mais on est l'objet de son amour, on porte du fruit. » Il a été prêt à sacrifier pour nous, ça pourrait nous monter à la tête, ça pourrait monter à la tête des disciples. Dans notre tête, ça pourrait monter avec des pensées complètement stupides, mais il a quand même de la chance de m'avoir dans sa bande, hein, Jésus. Il a quand même de la chance. Quand je regarde les autres, hein, j'en vois pas beaucoup qui en font autant que moi. Hein. Des pensées complètement stupides qui nous viennent à l'esprit. Et qui pourrait nous donner le sentiment qu'on a été à la hauteur. Mais Jésus s'empresse de dire que ce ne sont pas les disciples qui l'ont choisi, c'est lui qui les a choisis. Maintenant qu'on a dit que ce n'est pas à la sueur de notre front qu'on devient ami de Jésus, qu'on est aimé de lui, et même, ce n'est même pas de cette façon qu'on maintient son amour, mais plutôt qu'on l'expérimente, il faut quand même reconnaître qu'il y a une obéissance à ses commandements à avoir. Il y a bel et bien une obéissance, il y a bel et bien des commandements. Parce qu'on n'est pas simplement dans une relation avec un ami, on est aussi dans une relation avec un Seigneur, un Maître, à qui on doit tout. Il est le Seigneur, il est le Maître, et on va vouloir lui obéir si on est vraiment dans une relation d'amour avec lui. Et si Jésus parle d'amour, ce n'est pas pour faire... si Jésus parle de commandement, d'obéissance... Ce n'est pas pour faire le rabat-joie et dire « vous allez en baver ». Il s'empresse de dire au verset 11 « je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous ». La joie, laquelle ? Celle qu'il a eue d'obéir à son Père. Et ça n'a pas été facile. Et que votre joie soit complète. Alors il va falloir définir cette joie. Est-ce que cette joie, c'est l'euphorie d'un moment ? Belle sensation qui vous traverse. Il se pourrait que ce soit même précisément l'inverse. Ce sentiment d'euphorie, on pourrait l'avoir précisément quand on ne lui obéit pas. Ce sentiment d'euphorie, de quelque chose d'agréable, de plaisant, on pourrait l'avoir précisément quand on choisit la convoitise plutôt que l'obéissance. Quand on choisit de passer en force plutôt que d'être patient. Quand on choisit de s'enorgueillir plutôt que de reconnaître humblement qui on est, ça pourrait justement nous manquer cette joie dont il parle, une joie qui s'inscrit dans la durée, une joie profonde. Ce n'est pas quelque chose d'agréable et de plaisant sur le moment, mais une joie qui s'inscrit dans la durée dont Jésus parle. Imaginez quelqu'un 90 ans. C'est quelqu'un qui est mature dans la foi. Vous avez vu en lui les marques d'une personne qui allait jusqu'au bout et qui, de toute évidence, a une paix, une sérénité dans sa marche avec le Seigneur, une véritable piété. C'est une joie de passer du temps avec lui. Il dégage cette sérénité. Vous êtes avec lui dans le salon, il est installé dans le fauteuil. Et vous lui demandez ce qui procure une telle joie, un tel contentement. Est-ce que vous pensez qu'il va vous répondre ? Surtout, prends-toi pas la tête avec ce que Jésus dit. Surtout, t'occupe pas de ses commandements. Suis tes instincts, vis ta vie comme tu la sens. Est-ce que c'est ça qu'il vous dirait ? Certainement pas. C'est justement d'avoir su donner du crédit aux paroles de Jésus, d'avoir trouvé une joie dans la durée d'une obéissance à ses paroles, une joie profonde et durable d'avoir pris Jésus au sérieux dans le long terme, et une satisfaction. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te disons notre désir que cette obéissance, ce fruit que tu veux nous voir porter, puisse être porté. Nous te prions, Père, que tu nous accordes en Jésus d'approfondir cette relation et de vivre les conséquences de cela, une joie profonde dans l'obéissance. Tu connais nos aspirations du moment, tu connais aussi tous les obstacles qui se dressent en face, et nous te prions en sachant que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et nous dépendons de toi pour que ton projet s'accomplisse en nous, pour la gloire de ton nom. Amen.